Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Fermons nos yeux un instant et concentrons-nous sur lui. Alléluia. C'est le temps de la parole, merveilleuse parole qui transforme, qui bouleverse les mentalités. Parole qui change les vies. Parole qui transforme les situations. Parole qui va vous changer ce matin. Parole qui va transformer, qui va donner une réponse à ceux qui ont le cœur ouvert. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, manifeste-toi. Je t'aime, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Fais ce que tu veux. Nous gardons toute pensée en toi et nous amenons toute pensée captive à ton obéissance. Ce matin, Seigneur, nous gardons nos pensées fixées sur toi et nous nous concentrons sur ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, on va ouvrir la parole dans Jean, au chapitre 15. Jean, chapitre 15, versets 7 à 17. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jésus nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. On a l'habitude de chanter, Père soit glorifié. Jésus soit glorifié. Ce matin, on a chanté, sans cesse, tes serviteurs disent, sois exalté. Ce matin, on a chanté, agneau de Dieu, à toi la victoire. Et sans cesse, dans nos vies, nous allons chanter, nous allons prier, Seigneur, sois loué. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, nous te donnons la gloire. Et tout le temps, toute la vie, vous allez dire, sois glorifié. Vous pouvez dire à Dieu, sois glorifié, mais ce qui va glorifier Dieu, ce sont vos fruits. Parce que vos paroles elles-mêmes et vos prières elles-mêmes et vos louanges elles-mêmes n'accompliront rien. Mais lorsqu'elles seront accompagnées d'actes concrets, le Seigneur sera glorifié. Dieu sera glorifié. Si je dis à ma femme, Annabelle, Annabelle, sois bénie. Le lendemain, je lui dis, Annabelle, sois bénie. Le surlendemain, sois bénie. Et toute ma vie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Si je ne m'occupe pas d'elle. Si le soir, je rentre à 23h, je repars à 5h du matin. Si je ne prends aucun soin d'elle. Si je ne lui donne pas de quoi manger. De quoi se vêtir. Si je ne pense pas à elle. Si je ne suis pas pour elle une source de bénédiction. mes paroles ne vaudront rien du tout. Et dans le corps du Christ, il y a beaucoup de gens qui crient et qui chantent « Sois glorifié ». Mais nous avons 7 jours, mes amis. Et dans une semaine, il y a 7 jours. Et il n'y a pas que 2 heures le dimanche matin. Et cette parole aura certainement de la puissance lorsqu'elle sera accompagnée d'actes concrets. Si tu dis à l'affamé « Mange bien » et que tu ne lui donnes rien à manger, il va te dire « Mais tu me dis bon appétit, mais que m'as-tu donné ? Que vais-je manger ?» Les paroles elles-mêmes ne vont rien faire. Mais accompagnées d'actes concrets, ça va donner des fruits. Ta vie doit en elle-même être un objet de gloire pour Dieu. Ton caractère doit être un objet de gloire pour Dieu. Tout ce que tu es, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis doit glorifier Dieu. Ton caractère, tes pensées, tes sentiments, tes actions, ta vision, ta maison, ce que tu aimes doit glorifier Dieu. Ta famille doit glorifier Dieu. Aujourd'hui, est-ce que tu glorifies Dieu ? Est-ce que ton caractère glorifie Dieu ? Est-ce que tes pensées glorifient Dieu ? Est-ce que tes sentiments glorifient Dieu ? Au verset 8, il est dit « C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Il y a certainement 2 types de personnes. Il y a les disciples et il y a les dissipés. Nous allons voir ce que c'est un vrai disciple. Mais le dissipé, c'est quelqu'un qui vient et qui s'adonne à des occupations frivoles. Le dissipé, c'est quelqu'un qui n'a aucune vision. Le dissipé, c'est quelqu'un qui n'est pas concentré dans une vision. Le dissipé, c'est quelqu'un qui se disperse, quelqu'un qui est inattentif. Ce matin, es-tu un disciple ou es-tu un dissipé ? Au verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Qu'est-ce que Jésus nous dit ? Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. De la même façon que le Père m'a aimé, de la même façon moi aussi, je vous ai aimé. De la même façon dont le Père a aimé Jésus, il nous a aussi aimé. Voyons Jésus devant la foule, 5 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, des milliers de personnes. Il était responsable de ces personnes. Toutes les circonstances étaient contraires à Jésus ce soir-là. La nuit approchait. Ils étaient hors des villes, hors des campagnes. Tout était contraire à Jésus. Mais Jésus, sachant en qui il avait cru, sachant de qui il venait, il s'est confié et il a cru en l'amour de Dieu. Et il a pu dire « Père ». Et il a dit souvent « Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Lazare, sors de ton tombeau. Je te loue de ce que tu m'exauces toujours parce que je suis confiant dans ton amour. Demeurez dans mon amour. » Si un père donne à son fils une maison, et ce qui fait que ça lui appartient, cette maison, c'est un titre de propriété, et qui dit à son fils, demeure dans cette maison pendant que je partirai. S'il y a là un voleur qui passe, qui entre dans cette maison, le fils n'est pas là, le titre de propriété est là. S'il suffit que le voleur prenne ce papier pour que cette maison lui appartienne, qu'est-ce que va faire le voleur ? Il va prendre ce titre de propriété et il va balayer, expulser le fils qui va revenir. Ainsi Jésus a dit « Demeurez dans mon amour et ne vous le faites pas voler. » Parce que le diable c'est un voleur. Il va venir vous voler le fait que Dieu vous aime. Il va vous faire croire que Dieu ne vous aime pas. Il va vous faire croire que toutes ces circonstances qui viennent sont de Dieu. Que cette maladie vient de Dieu. C'est un voleur, un menteur. Demeurez dans mon amour. Nous devons demeurer en tant qu'enfants de Dieu dans l'amour. Je te loue de ce que tu m'exauces toujours, parce que je suis confiant en ton amour. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. De la même façon dont moi, je vous ai aimé, vous aussi aimez les uns et les autres. Mais qui sont les uns, qui sont les autres ? La Bible dit que nous sommes appelés à être un en Christ. Les uns, c'est la famille de Dieu. C'est les gens qui sont nés de nouveau sur cette terre. Jésus ne nous a pas dit seulement, aimez les quelques personnes qu'il y a dans votre église, n'aimez pas seulement les uns. Mais il a dit, aimez les uns, puis les autres. Puis les autres. Les autres, ce sont ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Certains diront, je veux bien être aimé. Mais de là, aimer les uns, en plus les autres. Déjà, j'ai du mal à aimer mon frère. Comment pourrais-je aimer mon voisin ? Comment pourrais-je aimer mon collègue de travail ? Mais Jésus nous appelle à l'aimer de la même façon. Jésus a un modèle pour nous, il a dû laisser couler l'amour de Dieu en lui. Jésus dit « Demeurez dans mon amour, je vous ai aimé ». C'est-à-dire qu'à notre nouvelle naissance, il a placé en nous un amour surnaturel et puissant. Et il nous dit de laisser couler cet amour au travers de nos actions. Gethsemane. Jésus était là. Les larmes comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre pour toi. Parce qu'il t'aimait. Il a dû laisser couler l'amour. Voilà que le disciple de Jésus arrache l'oreille de ce serviteur. Et Jésus, dans son amour, il l'a guéri. Il a guéri ceux qui l'oppressaient. Il a guéri ceux qui sont venus vers lui pour le tuer. Et Jésus a marché. On l'a giflé. On l'a roué de coups. Des coups de fouet acérés. Un coup de fouet. Deux, trois, quatre. Et à chaque coup de fouet, il a laissé couler l'amour de Dieu qui était en lui. À chaque coup de fouet, il a dû laisser couler son amour pour toi. Sa souffrance était intenable. Son âme ne pouvait imaginer une telle douleur. Mais il a laissé couler cet amour. Le voilà sur le chemin de la croix, en direction de la croix. Le poids de la croix qui vient sur ses épaules, son corps qui est dépassé par les événements. On lui crache dessus. La foule lui crache dessus. Le voilà sur la colline. On le met à terre. Et on le transperce. Puis on le dresse. Mais dans son amour, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes amis, Jésus a laissé couler l'amour. Il ne l'a pas gardé pour lui. Il ne l'a pas oublié. Vous avez en vous l'amour de Dieu. Il est en vous. N'allez pas le chercher ailleurs. N'allez pas le chercher dans les livres. L'amour de Dieu est en vous. Et Jésus, alors que ces pharisiens étaient là depuis 3 ans, jour après jour, à dire du mal de lui, à parler en mal à tout le monde de lui, à le reprendre en public, à dire du mal de lui constamment, à lui faire du mal, Jésus les a aimés. Et sur la croix, il pensait à toi, il pensait à moi. Jésus a dit « Demeurez dans mon amour ». Laissez-le couler. Vous avez en vous, dans votre esprit, l'amour de Dieu, tout un potentiel d'amour que beaucoup de chrétiens n'utilisent pas. Pourtant, il est là. Alors si on vient t'attaquer, si on vient t'oppresser, laisse couler l'amour. Laisse couler l'amour. Demeure dans l'amour de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si Jésus a donné sa vie, je dois donner la mienne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le monde nous a donné une certaine définition de l'amour. Mais la Bible dit que Dieu est amour. L'amour, c'est qui? C'est quoi? L'amour, c'est Dieu. Si tu penses être un ami pour ceux qui t'entourent, parle-leur de Jésus. Si tu commences à aller avec tes amis et que là, toutes tes discussions tournent autour de choses qui sont mondaines, autour de choses qui n'édifient pas, est-ce que c'est l'esprit du monde qui habite en eux qui va vaincre? Ou est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui habite en toi qui va dominer? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Voilà notre vision. Un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui veut donner sa vie, quelqu'un qui est complètement emballé par cette vision. Je donnerai ma vie pour les autres. Un vrai disciple de Jésus-Christ, une vraie consécration, une vraie sanctification, c'est de donner sa vie pour les autres. Il y a des gens qui jeûnent jour après jour, pour se sanctifier, pour se consacrer. Mais s'ils ne posent pas d'actes concrets, cela ne servira de rien. Le vrai amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Jésus lui-même s'est sanctifié. Il s'est mis à part. Et le disciple de Jésus-Christ, il se met à part. Voilà notre vision. Celui qui aime, il donne sa vie pour les autres. Jésus a dit, celui qui ne prend pas sa croix, il n'est pas digne de moi. On lit au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus, en laissant couler cet amour, a changé la relation de serviteur à maître. Et Jésus a transformé cette relation d'égal à égal. Jésus nous appelle ses amis. Et il est dit, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous devons faire connaître tout ce que Jésus a fait pour nous, à nos amis. Voilà la vraie amitié. Voilà le vrai amour. Si tu veux avoir des amis dans ce monde, voilà comment, bibliquement, il faut les aimer. En leur parlant de Jésus-Christ et ce qu'il a accompli dans ta vie. Voilà le vrai amour. Parlez de Jésus. Laissez couler l'amour. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Les inconvertis ne vont pas venir courir vers vous. Parle-nous de Jésus. Dans la majeure partie du temps, ils ne vont pas venir courir vers vous. Et vous dire, parle-nous de Jésus, parle-nous de Jésus. C'est Jésus qui a choisi les disciples. Les disciples, ils étaient occupés à tout un tas de choses. Certains à voler de l'argent. Certains à s'occuper de leurs poissons sur leur barque. Ils avaient des choses à faire. Un travail. Mais c'est Jésus qui a été chercher les disciples. Les disciples ne sont pas accourus au pied de Jésus. Mais il a été les chercher. Et toi aussi, Dieu te demande d'aller chercher quelques personnes autour de toi. Et d'en faire ta cible. Dieu n'appelle pas un chrétien à sauver le monde entier. Mais Dieu donne des champs. Il y a des chrétiens qui prient pour toutes les nations de la terre. Mais Jésus a choisi 12 personnes et non pas 5000. Alors quand tu pries, commence à choisir des personnes autour de toi. Et fixe ton objectif sur eux. Ta cible, c'est eux en Jésus. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pourquoi Jésus met-il en relation la prière avec l'amour? Parce qu'au travers de la prière, tu vas venir laisser couler l'amour. Parce que si tu aimes réellement tes amis, tu vas devoir prier pour eux. Et j'aimerais vous prévenir de certains dangers, certaines erreurs. L'intercession, la prière pour les gens qui ne sont pas sauvés, ce n'est pas un ministère. Il y a 5 ministères. Apôtres, prophètes, pasteurs, enseignants. Évangéliste. L'intercession n'est pas un ministère. On parle de séminaire d'intercesseurs. On parle de réunion d'intercession. Mais l'intercession, tu peux la faire. L'intercession, tu peux l'accomplir. Ce n'est pas réservé à quelques personnes. Mais l'intercession est pour chaque croyant né de nouveau. Et on a entendu des histoires. Dans la ville d'où je viens, il y avait là un groupe de chrétiens. Et ils disaient, mais le Seigneur nous a montré, on doit aller aux quatre coins de la ville. Et le Seigneur nous a donné le nom des démons qui dominent sur la ville. Nous allons aller les chasser. Et après, il va y avoir un grand réveil. Mais le réveil n'a pas été. Et il y a eu sur la France des gens qui ont dit, nous voyons un gros nuage. Et nous devons aller autour de Paris, déboucher des puits. Nous devons aller chasser des certaines dominations. Quel est le fruit de ces choses? Même Jésus était toujours conduit. Avant de chasser un démon. Soit les démons venaient vers Jésus et Jésus les chassait. Soit Jésus était dirigé, conduit par l'Esprit de Dieu et il les chassait. Même Jésus, quand il a chassé les démons dans les pourceaux, il ne les a pas détruits. La Bible dit que le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Et les réunions d'intercession, ça ne doit pas être des réunions où vous chassez les démons n'importe comment, de tout et de rien. Parce que le fruit, ça va être zéro. Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, mais si vous êtes conduit par des modes, le fruit sera zéro. L'intercession, ce n'est pas non plus parler à des gens à distance. Il y a toutes sortes de choses qui circulent dans les églises parfois. Au nom de Jésus, j'ordonne à Patrick qui habite à Nantes de se convertir. Vous ne pouvez pas parler aux esprits des gens. L'intercession, si vous voulez intercéder, regardez comment la Bible parle de l'intercession. La Bible dit que le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Parce que nous pouvons prier pour des gens qui sont perdus. Seigneur, sauve-les. Seigneur, tu vois, ils sont perdus. Seigneur, s'ils continuent, ils vont aller en enfer. Seigneur, tu vois, il est gentil quand même. Il ne faudrait pas qu'il aille en enfer. Mais si vous priez comme ça, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Mais si vous priez avec passion, et que vous laissez couler le Saint-Esprit, si vous laissez enfin agir le Saint-Esprit dans vos prières. Mes amis, il va y avoir une passion qui va venir vous envelopper, une ferveur. Vous allez vous mettre à parler en langue, comme une femme qui enfante, vous allez enfanter la nouvelle naissance de cette personne. Comme je le racontais la semaine dernière pour mon beau-père. Je priais pour lui, j'ai prié pour lui plusieurs fois l'an dernier, l'an passé. Mais je priais, Père, sauve-le, Père, sauve-le. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne au secours de ma faiblesse, au secours de mes simples mots, de ma simple intelligence. Et en début d'année, Il y a eu pendant un mois, le Saint-Esprit venait sur moi. Il y avait une passion, une ferveur. Et j'intercédais pour lui. L'intercession, c'est une prière dans l'esprit. Comme la prière en langue. C'est le Saint-Esprit qui va initier la prière d'intercession. Et quand il viendra sur vous, ça va porter des fruits. Le père de ma femme, en fin de mois, il m'appelle et il me dit, il m'a raconté après, il est rentré de son travail, et là il a vu une vision de la croix. Un homme qui n'avait pas d'éducation religieuse, un homme qui ne va pas aux églises, mais il a eu une vision de la croix. Et là il avait envie de pleurer. Il avait envie de pleurer et il est bouleversé par cette vision. Il a commencé à avoir soif, il m'a raconté des choses de sa vie. Alors je lui ai offert ça, un évangile. Et depuis, il me dit, je l'ai lu plusieurs fois. C'est le Saint-Esprit qui va œuvrer. Si vous vous attendez toujours à vos propres forces et vos propres mots, ça portera pas de fruits. Laissez enfin couler le Saint-Esprit. Laissez-le faire son ministère. La Bible nous dit, c'est lui qui viendra au secours de vos faiblesses. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Les gens disent, oui, mais j'évangélise. Mais Seigneur, je suis persécuté. Seigneur, regarde tout ce qu'ils disent. Regarde, certains se sont moqués de moi. Mes amis, la persécution, c'est une promesse. C'est une promesse. La maladie n'est pas une promesse. La pauvreté n'est pas une promesse. Mais Jésus a dit, vous serez haïs. C'est une promesse. Le monde ne nous aime pas parce que nous sommes différents. Et depuis la chute, les gens qui sont différents, on les laisse de côté. Les gens qui sont différents, on ne les écoute pas. Les gens qui sont différents, on les met ensemble pour pas qu'ils gênent. Et même chez les animaux, si le lion donne naissance à un bébé et que celui-là n'a pas l'air viable, celui-là a un défaut, la lionne va le laisser de côté et le laisser mourir. C'est une promesse, oui, le monde vous rejettera, mais vous ne le rejetez jamais. Mais vous ne le rejetez pas. Oui, ils vous persécuteront. Au verset 20, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ce verset a souvent été mal compris. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais qu'est-ce que Jésus voulait vraiment dire? Jésus voulait dire que le serviteur a les mêmes œuvres que son maître. Il a les mêmes traits et le même caractère que son maître. Voilà ce que Jésus dit quand il dit ça. Mon serviteur aura les mêmes œuvres que moi. Et on rappelle souvent à Dieu dans les prières. Seigneur, je suis persécuté. Seigneur, ils disent du mal de moi à cause de ça. Seigneur, on m'a interdit de parler de toi au travail. Mais on oublie la promesse. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors quand vous êtes persécuté, rappelez-vous la promesse. S'ils ont gardé la parole de Jésus. Et si aujourd'hui vous êtes né de nouveau grâce à des gens qui ont gardé la parole de Jésus, sachez qu'ils pourront aussi garder la vôtre. Faites-lui confiance. Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Le peuple de Dieu a laissé de côté l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, vous ne serez plus jamais seul. Mais le Saint-Esprit travaillera avec vous. Plus jamais seul. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était sur les rois, les sacrificateurs, les prophètes. Le Saint-Esprit était là dans le lieu très saint. Mais malheureusement, un homme pouvait y aller une fois par an. Et Dieu a dit, je ne pourrai pas habiter dans une maison, puisque la terre et les cieux ne peuvent me contenir. Et le Saint-Esprit avait une soif. Le Saint-Esprit avait une hâte. Le Saint-Esprit avait hâte qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Il avait hâte que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Parce que le jour de ta nouvelle naissance, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as tout le potentiel en toi pour amener quelqu'un à Christ. Tu as tout le potentiel en toi pour que les gens soient sauvés. Jésus a dit, il convaincra le monde de péché, de jugement, de justice. Jésus n'a pas dit en riant, vous les païens, vous les inconvertis, le Saint-Esprit va venir vous convaincre de ceci, de cela, de cela. Non, il nous a montré comment le Saint-Esprit œuvrait. Il a dit, voilà ce que va faire le Saint-Esprit. Vous, votre part, c'est prier. Vous, votre part, c'est vous attendre à Dieu. Vous, votre part, c'est laisser couler l'amour. Et lui, le Saint-Esprit, il viendra au secours de vos faiblesses. Le Saint-Esprit, il viendra. Et il va convaincre le monde, alors que vous êtes en train de prier, il va convaincre la personne pour laquelle vous priez, de péché, de jugement et de justice. C'est ce qui s'est passé avec mon beau-père. Convaincu de péché. Je n'avais rien dit. Ma semence était si faible, si misérable. Il savait juste que j'étais chrétien. Il avait juste entendu mon témoignage. Tu pries certainement pour des gens autour de toi. Mais tes pensées ne sont pas en accord avec ce que dit la Bible. N'attriste pas le Saint-Esprit. Parce qu'en croyant qu'il ne peut pas sauver cette personne, tu l'attristes. Il est puissant. Il est puissant. Et ce matin, il touche ton cœur. Ce matin, la parole est semée en toi. Ce matin, celui qui a le cœur ouvert va avoir une semence en toi. Parce qu'il est le Saint-Esprit et il ne te laissera jamais seul. Il nous a montré la part du Saint-Esprit. Au verset 33 du chapitre 16, Jésus a dit, « Vous aurez des tribulations, c'est vrai, dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Jésus n'a pas dit « J'ai vaincu les gens ». Jésus n'a pas dit « J'ai vaincu les personnes ». Jésus n'a même pas dit « J'ai vaincu les pharisiens ». Mais Jésus a dit « J'ai vaincu les principes de ce monde. J'ai vaincu les dominations, les autorités de ce monde. Je n'ai plus à me battre avec les démons ou je ne sais quoi. » Parfois, il y a des situations où Dieu va te montrer clairement dans la vie des autres comment le faire. Mais dans ma vie, où suis-je assis? Je suis avec Christ, assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. En Christ, j'ai la force. En Christ, j'ai de quoi amener quelqu'un à Christ. J'ai le mouvement, j'ai l'être. Et pendant que tu prieras, le fleuve de Dieu, le flot de Dieu va venir couler en toi, te rafraîchir. Si votre vie spirituelle n'est qu'un désastre, si vous n'avez pas senti la main de Dieu sur vous depuis longtemps, sachez que ce n'est une fausse image et que c'est le voleur qui vient vous dérober l'amour de Dieu. Mais il faut que vous demeuriez dans son amour. Parce que je vous le dis, si vous vous concentrez sur lui, il va avoir des temps dans la prière où le Saint-Esprit va venir sur vous, vous envelopper, vous bouleverser, vous changer. Et même si vous êtes dans des problèmes, dans des situations, si vous êtes patron d'entreprise, que l'économie va mal, il va venir vous envelopper, et vous allez avoir les yeux fixés sur lui. Tout va disparaître. Parce que vos idées préconçues, vos pensées cartésiennes, vont diminuer, et lui va croître. Voilà le travail du Saint-Esprit. Jésus a vaincu toute domination, toute autorité, afin que lorsque tu pries, les gens soient touchés par le Saint-Esprit. Ne commence pas à penser et à dire « oui, mais ». Ne commence pas à penser et à dire « mais dans les autres églises, mais tel chrétien a 20 ans de conversion, il ne voit pas la main de Dieu ». Chacun aura à rendre compte pour sa vie. Ta vie, c'est un chant qui peut devenir un magnifique jardin, un chant qui peut devenir le jardin d'Éden, mais un chant qui peut devenir un désastre, comme ce chant où Judas s'est suicidé. Qu'est-ce que ta vie? Es-tu disciple ou dissipé? Quelle est ta vision? Par quoi es-tu porté? Est-ce que ton but ultime c'est de donner ta vie pour les autres, et en cela de donner ta vie pour Jésus? On va lire dans Jean 17, verset 9. Jésus a dit, avant de partir, ces dernières paroles sont tellement importantes. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus n'a pas prié pour le monde. Et parfois, il y a des chrétiens qui pensent qu'il faut prier pour toute la terre. Je ne méprise pas ces prières. C'est une critique constructive. Mais mes amis, nous avons un champ. Dieu a donné à certains un denier. Dieu a donné à certains deux deniers. Mais Dieu n'a pas donné à quelqu'un tous les deniers. Il y a une mesure de l'Esprit de Dieu en toi. Si celui qui a reçu deux deniers va dans un pays et commence à prendre les deniers des autres, c'est un voleur. Non, Dieu t'a donné quelques deniers. Dieu t'a donné un champ. Peut-être ta famille, peut-être ta ville, peut-être même ton pays. Mais il y a des gens qui prient. Et avant les repas, il y a beaucoup de prières. Je ne méprise pas ces prières. Mais il y a des gens qui prient, « Père, Je prie pour tous ceux qui n'ont pas à manger. Qui n'a jamais prié cette prière? Pour tous les gens qui n'ont pas à manger. Mais mes amis, ça fait combien de milliers d'années que des gens prient comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas la famine quelque part? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des gens qui n'ont pas à manger encore? C'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de prier. Mais Jésus n'a pas prié pour toute la terre. Quelle est la foi qu'il y a quand tu pries, Seigneur, je te prie pour toute la terre? Quelle foi il y a là-dedans? Si déjà tu as du mal à amener quelqu'un à Christ, une personne, avant de prier, il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Je crois que Dieu peut diriger quelqu'un pour apaiser la faim dans un pays, mais il faut être dirigé par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. C'est pas la prière tout court. Et la foi s'appuie sur quoi? Sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. Alors quand tu pries, appuie-toi sur la parole de Dieu. Parce que tu pourras prier pour toute la terre, mais tu ne verras pas de fruits. Tu peux avoir une grande vision. Mais Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, puis en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus n'a pas dit, vous serez mes témoins aux extrémités de la terre, mais d'abord à Jérusalem. Si tu veux voir grand, commence avec ce qu'il y a. Commence avec ce que tu as. Commence avec le don de Dieu qu'il t'a donné. Parce que Dieu t'a donné un don. Fais-le croître. Fais-le croître. À notre nouvelle naissance, la Bible dit que nous avons été envoyés. Comme de la même façon dont toi, Père, tu m'as envoyé, a dit Jésus. De la même façon, moi, je les envoie. À notre nouvelle naissance, nous avons été propulsés dans le monde pour accomplir quelque chose. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam, garde le jardin. Mais Adam ne l'a pas gardé, puisque quelqu'un est venu et a volé ce jardin. Et voilà qu'Adam se retrouvait dans une terre où il devait travailler à la sueur de son front. Jésus a gardé ses disciples. Et tu dois garder les quelques personnes que tu as à cœur. Ne les lâche pas. Parce que le Saint-Esprit, lui, n'a pas l'intention et le désir de les lâcher. Mais qu'il soit ta cible, qu'il soit ton pain quotidien. Jésus a gardé ses disciples. On le voit lorsqu'il va à Gethsémané. La Bible dit qu'il a emmené avec lui tous ses disciples. Parce qu'il savait que s'il laissait ses disciples dans cette heure qui était la dernière, c'était comme si un berger laissait ses brebis alors que le loup venait. Et il ne voulait pas que ses brebis se fassent arracher. Parce que si un disciple s'était trouvé là, le jour et la nuit où Jésus devait se faire enlever, c'était dangereux pour lui. Si bien que la Bible dit que ce soir-là, il y avait un homme. Les pharisiens ou les gardes ont voulu l'attraper. Il n'avait qu'un linge autour de lui. Le garde a pris le linge et la personne s'est enfuie tout nue. Pourquoi il s'est enfui tout nu? Parce que c'était dangereux pour lui. Il ne voulait pas se faire arrêter. Et Jésus a gardé ses disciples. Jusqu'au dernier moment, il a dit, je vous ai dit que c'est moi. Laissez partir ceci. Parce que Jésus voulait les garder. Et jusqu'au dernier moment, il les a gardés. Sur la croix même. Alors que tout lui était contraire. Il a dit à un disciple, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Jusqu'au dernier moment, il les a gardés. Vous connaissez tous des tortures qui ont été faites à des gens pour connaître le nom ou le lieu où se trouve le chef. Et voilà ce qui aurait pu se passer. Ce soir-là, il y avait une atmosphère électrique dans ce lieu du jardin de Gethsémané. Tout pouvait aller très vite, si bien qu'il a une oreille de tranchée. Mais Jésus les a gardés. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition qui s'est choisi lui-même un chemin. Mais moi, je n'ai perdu aucun de ces 12. Il s'est donné comme un père donnerait sa vie pour ses enfants. Et vous êtes un père, vous êtes une mère pour ceux qui ne sont pas sauvés. Vous en avez la responsabilité, comme Jésus avait la responsabilité de cette foule qui n'avait pas de quoi manger. Demeure dans son amour. Laisse couler son amour. Fixe tes yeux sur le Saint-Esprit. Ne travaille pas seul. Ces gens qui sont perdus ne sont même pas encore bébés spirituels. Et j'ai vu un enfant qui était sur le sol, maigre, dans la poussière. La poussière balayait et venait contre cet enfant. Et cet enfant pleurait et criait. Et j'ai vu les chrétiens passer à droite et gauche. Je me suis vu parfois passer. Je t'ai vu parfois passer à côté de cet enfant qui criait et qui pleurait. Et l'église de Jésus-Christ est souvent passée à côté de ces enfants, de ces hommes et de ces femmes qui ne sont pas sauvés et qui courent droit en enfer pour l'éternité. Disciple ou dissipé, quelle est ta vision? Est-ce que tu as vraiment compris qu'après ta mort, tu vas aller au ciel? Est-ce que tu as vraiment compris que celui qui n'est pas né de nouveau, après sa mort, il va en enfer pour l'éternité? C'est fini, c'est trop tard. Église de Jésus-Christ, jusqu'à quand vas-tu passer ton temps pour tes propres passions, pour tes propres occupations? Ce n'est pas un message pour vous culpabiliser, mais c'est un message pour vous propulser dans votre destinée. Un message pour vous encourager. Parce que le monde meurt, et tes voisins à côté de toi, et ta famille, et peut-être ton père, ta mère. Il n'est jamais trop tard. Fais-lui confiance. Il a un ministère. Et il peut t'utiliser. Fais-lui confiance. Parce que si tu as foi, il ne mentira jamais. Aie foi en Dieu pour ceux qui se perdent. Parce qu'il court. La Bible nous parle de ce train de ce monde qui passe. L'homme n'est que poussière sur la terre parce que ça passe vite. Mais prie, prie pour ceux qui sont perdus. Et lorsque tu viens à l'église, dans des réunions qu'on appelle des réunions d'intercession, c'est une bonne chose, mais viens avec un cœur pour ceux qui se perdent, parce que tu es un père et une mère pour eux. Dans Jean 20, 21, pour finir, c'est le dernier verset. Jésus meurt, il ressuscite, et la première parole, parole tellement importante, comme la première parole de quelqu'un qui est parti depuis longtemps et que vous revoyez. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Tu es envoyé. Tu as une mission. Tu as une vision. Tu marches sur la terre avec le même bénéfice d'amour avec lequel Jésus marchait et pouvait guérir les malades et pouvait ressusciter les morts. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils ressusciteront les morts. En mon nom, ils guériront les gens, ils feront des miracles. C'est pas impossible. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit, tout est possible en Jésus. Et quand tes pensées viennent, quand, parce que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, des pensées du monde viennent en nous, balayons-les et revenons à la vérité de la parole de Dieu. Fermez vos yeux, s'il vous plaît, un moment. Parce que là, c'est le ministère du Saint-Esprit. Ne laissez pas divaguer vos pensées, mais pensez à ceux qui se perdent. Cette semaine même, donnez-vous une cible et gardez cette cible. Pensez en ce moment même à des gens qui sont perdus autour de vous. Ceux que vous avez à cœur. Et n'ayez jamais, n'ayez jamais honte de prier avec pleurs pour eux. Même dans l'église. Parce que Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Jésus était prêt à boire la coupe de souffrance. Est-ce que ce matin, réponds dans ton cœur et réponds à Dieu, non pas à moi. Es-tu prêt à boire la coupe de prière? Es-tu prêt à boire la coupe de larmes, de pleurs pour les perdus? Es-tu prêt à boire la coupe de temps, de passion, de zèle, d'amour pour ceux qui sont perdus? Mes amis, il y a en vous un potentiel d'amour. L'amour de Dieu en vous, pour amener les perdus à être sauvés. Que votre prière d'intercession ne soit plus jamais la même. Demeurez dans son amour. Maintenant, je vais prier. Le Saint-Esprit va venir sur certaines personnes, les toucher particulièrement. Le Saint-Esprit va venir sur ceux qui ont un cœur ouvert. Et ceux qui disent, Saint-Esprit, je t'ai peut-être laissé de côté pendant un moment. Mais ce matin, ma vie ne sera plus jamais la même. Parce que je ne suis pas seul, mais je vais te laisser agir dans ton ministère. Saint-Esprit de Dieu, tu es saint et merveilleux. Et tu as un ministère. Tu es la personne de Dieu. Tu as une sensibilité. Tu as une volonté, des sentiments. Saint-Esprit, s'il te plaît, passe dans les rangs maintenant. Passe dans les rangs. Et que les gens qui sont prêts à boire cette coupe reçoivent le fardeau pour les âmes, Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'il y ait des visions qui naissent maintenant dans le nom de Jésus. Qu'il y ait des visions qui naissent dans les cœurs. Une aspiration profonde. L'aspiration d'un disciple. Saint-Esprit, c'est toi qui touches ton peuple maintenant. Et tu l'amènes dans une nouvelle vision. Tu l'amènes à croire en ta parole et à s'attendre aux dons spirituels que tu veux donner à ton Église, jour après jour. Saint-Esprit, touche maintenant. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Et ceux qui le souhaitent, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père Céleste, j'ai soif de toi. J'ai entendu cette parole. Et Seigneur, je crois que le Saint-Esprit peut m'utiliser. Saint-Esprit, viens faire naître en moi une vision pour les âmes. Je me donne entièrement pour eux, pour ceux que tu m'as donnés. La vision naît maintenant dans mon cœur et je la reçois. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour ceux que tu m'as donnés. Saint-Esprit, je veux te laisser agir dans ton ministère. Je crois que, alors que je prierai pour les gens, alors que je marcherai dans la rue, tu vas commencer à me parler sur certaines personnes. Saint-Esprit, je m'ouvre à toi et je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai laissé de côté. Me voici nouveau en toi. Merci, Saint-Esprit. Amen. Cette vision qui est née en vous, gardez-la précieusement. La Bible dit qu'il a mis en vous des diamants. Il faut les garder précieusement. Et si un jour il vous vient de les laisser quelques jours, revenez sans avoir peur, sans peur. Amen. J'aimerais juste vous dire une petite chose simplement, quelque chose de pratique. Alors que vous allez prier et commencer à prier, si vous priez régulièrement, le Saint-Esprit va venir sur vous. Et alors que vous êtes dans la rue, il va commencer à vous parler sur certaines personnes. Il y a 2 semaines, j'étais à Auchan, simplement pour aller faire mes courses, et j'étais là à l'accueil pour refaire ma carte Auchan. Et là, il y avait un couple devant moi, et le Saint-Esprit me dit, j'entends dans mon esprit, cet homme trompe sa femme. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Oui, cet homme trompe sa femme, et qu'est-ce que je dois faire avec ça? Et alors j'étais là dans le champ et je me disais, mais comment utiliser cette parole? Vous savez, au début, le Saint-Esprit ne va pas venir vers vous. Ouh, dis-lui ceci, cela, cela. Mais il va commencer à vous parler. Petit à petit. Et je sais que si j'étais allé vers ces gens, voilà ce que j'aurais dit. J'aurais dit, si les hommes sont infidèles, Dieu lui est fidèle. Et il peut transformer et restaurer votre couple. Et je leur aurais dit de mettre leur confiance en Dieu. Mais ça, c'est un travail. Et Dieu va vous utiliser de cette façon. Quand je suis né de nouveau, on a commencé des réunions de jeunes. Et pendant un mois, à chaque réunion, le Saint-Esprit est venu et m'a dit, telle personne a ceci, telle personne a cela. Cette fille-là, elle a un problème avec quelqu'un de sa famille qui dure depuis des années. Cette fille-là, elle a été violée. Et je savais pas quoi faire avec ça. Et à chaque fin de ces réunions, cette personne est venue vers moi et a commencé à me dévoiler ça. Et je disais, mais le Seigneur m'avait dit, mais c'était trop tard. Et pendant très longtemps, plus de paroles. Alors vous devez aspirer aux dons spirituels. Et comme je l'ai dit la dernière fois, vous devez méditer sur les dons spirituels afin que Dieu puisse vous utiliser. Et si nous nous sommes trompés, il y a encore un espoir. Si vous avez échoué dans votre évangélisation, il y a de l'espoir. Parce qu'en Dieu, il y a espoir et amour, espérance et foi. Faites-lui confiance. Et que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction.
Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.